La philosophie autrement. Christine Goémé, bonjour. Auria Bénissimasseur, vous êtes philosophe et directeur de recherche au CNRS, vous êtes spécialiste de philosophie des sciences et à ce titre vous avez un DEA de mathématiques. Vous souhaitez nous dire ce matin à quel point faire des sciences devient fondamental pour philosopher. C'est presque au fond un appel que vous voulez lancer à cette antenne, Auria Bénissimasseur.
Mais oui, un appel, parce que je constate dans notre environnement intellectuel une assez grande dissymétrie. La philosophie, les philosophes aujourd'hui sont tentés de tourner le dos aux sciences parce qu'ils ne peuvent pas en maîtriser le développement qui est devenu extrêmement rapide. Les techniques qui sont devenues extrêmement sophistiquées et ils ont en somme un peu de mal, ou beaucoup de mal, à accoster au rivage de la science. À l'inverse, beaucoup de scientifiques font l'effort de sortir de leur laboratoire pour porter, si je puis dire, quelque chose de leur science jusqu'aux citoyens. Alors, évidemment, ils le font sur le mode de la communication et de la création d'événements autour de la science. Vous savez très bien.
Grandes expositions.
Voilà, le Futuroscope à Poitiers qui s'occupe des sciences et des citoyens, la Cité des sciences à la Villette qui est un musée des sciences où on doit pouvoir aller encore plus souvent que d'admirer les tableaux du Grand Palais ou du Musée d'Orsay. C'est au fond important parce que les scientifiques prennent conscience de créer un rite et même de contribuer au lien social par la mise en scène, la mise en image, la mise en culture de la science.
Alors si je vous comprends bien, Auria Bénissimasseur, vous pensez que les philosophes sont en retard par rapport aux scientifiques dans cette approche comme ça de la pensée scientifique, dans cette approche du désir de faire connaître quelque chose qui au fond n'est pas directement lié à leur discipline.
Oui, peut-être. Il faut bien sûr remarquer que ces grandes manifestations autour de la science, ces fêtes de la science, oui, sont des événements culturel au sens général.
Parfois plutôt, un peu Disneylandisé d'ailleurs.
Oui, hein, plutôt qu'une acculturation scientifique, c'est-à-dire plutôt qu'une véritable formation à la science. Mais n'empêche, autrement dit, ces fêtes marquent la place de la science dans la société. Et peut-être que le philosophe tente à se mettre un petit peu en retrait, et peut-être a moins marqué sa place.
Et comme vous l'expliquiez d'ailleurs à l'instant, il est vrai que c'est difficile, très difficile, de faire cette démarche. Enfin, vous-même, vous avez fait donc ce DEA de mathématiques, mais quand même, c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas simple pour un philosophe, d'aller vers un autre objet.
Et pourtant, c'est absolument nécessaire, parce que la philosophie fait flèche de tout bois. Et aujourd'hui, plus que jamais, le philosophe ne peut ignorer tout ce qu'il y a de traces de science dans son environnement.
C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire l'économie de cette pensée.
Hein. Non, il ne peut pas faire l'économie, à mon avis. Et évidemment, il faut du temps. C'est-à-dire, il faut un temps de loisir plutôt et laisser tomber l'industrie des loisirs. Il faut consacrer du temps à une formation solide, à une pratique très exigeante, qui est ardue, que ça peut prendre des années. Il faut penser à long terme et ne pas être pressé d'arriver très vite. Et la philosophie, du reste, est un très, très, très long apprentissage.
C'est un apprentissage à vie, on pourrait dire.
Oui, c'est un apprentissage à vie. On commence aussitôt qu'on le peut et on ne finit jamais. Et un des aspects de cet apprentissage est certainement l'habitude de pratiquer une science. Alors, ça peut être la psychologie, ça peut être la physique en laboratoire, ça peut être aussi les mathématiques. Et ça peut être tout simplement, même si on ne pratique pas constamment, il faut avoir pratiqué un certain temps pour avoir un ancrage scientifique. Et alors ensuite, il faut se tenir au courant, c'est-à-dire être capable de comprendre quelque chose à la divulgation des résultats scientifiques récents. Il faut se tenir informé, il faut être à jour.
Alors, je me souviens que sur cette même antenne, le professeur Jean-Jacques, qui avait un laboratoire, qui dirigeait un laboratoire au Collège de France, se plaignait que les philosophes ne venaient jamais visiter, au moins visiter, aient la curiosité de venir visiter son laboratoire. Donc, en effet, je crois que le problème est sans cesse reconduit et il s'aggrave d'une certaine manière puisque le monde aujourd'hui qui nous est donné à penser exige quand même quelques compétences scientifiques, ne serait-ce que pour parler au fond de la vie elle-même.
Bien sûr, de la vie elle-même. Et vous savez, les grandes questions traditionnelles de la philosophie, elles sont à peu près celles-ci et quelques autres. Qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que la vie?
Qu'est-ce que la mort?
Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la raison? À quoi sert le rêve? Comment fonctionne le rapport entre l'esprit et le corps? Mais toutes pour répondre aujourd'hui, philosophiquement j'entends, à ces questions, on ne peut absolument pas faire l'économie du savoir que nous ont apporté les sciences. À mon avis, je suis pourtant pas spécialiste de biologie, mais je ne peux pas. J'ai évidemment lu les œuvres de François Jacob, de Jacques Monod sur la nécessité, le hasard. Vous savez bien qu'ils ont popularisé dans notre, culture presque quotidienne, l'idée du bricolage comme mode de solution du vivant à ses problèmes. Et effectivement, par exemple, je regrette, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais dû aller visiter le laboratoire de Michel Jouvet à Lyon, où on nous apprend que le rêve est un état spécifique du sommeil, ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, donc distinct de la veille et distinct du sommeil lent. Et quand on se demande, depuis toujours, on se demande à quoi sert le rêve, qu'est-ce que dit le rêve à la veille, qu'est-ce que dit le rêve à l'être humain éveillé. Et là, en tout cas, la réponse du scientifique, elle est peut-être un peu sèche, mais il faut en tenir compte, est très importante. Il semble que le rêve soit important dans la reprogrammation du cerveau quotidiennement et qu'il est lié avec les techniques, avec la mémoire. Donc c'est pas le moment où on oublie. Voilà, le rêve n'est pas le moment où on oublie, c'est le moment où on recharge pour mémoriser. Vous voyez?
Alors, il faut quand même dire, Ouria Benissi-Nasseur, que la France a eu de grands philosophes des sciences. On pense évidemment à Georges Canguilhem, récemment, on peut dire récemment, mais enfin c'était quand même il y a 15 ans, aujourd'hui, qu'il y a eu de grands philosophes des mathématiques. Mais le problème, c'est que cette transmission s'est aussi un peu brisée d'une certaine manière.
Alors, oui, c'est vrai, elle s'est brisée. Il y a un fait sociologique à l'origine de cette rupture. Vous savez, quand moi je passais l'agrégation, ça fait quelques décennies, il était obligatoire pour tous les futurs candidats à l'agrégation de philosophie de présenter et de réussir un certificat de sciences. C'est-à-dire, on pouvait faire la licence et la maîtrise, ce qui correspond à la maîtrise de philosophie, mais si on voulait être agrégé, ce qui est un niveau de compétence supérieur, il fallait avoir une petite traversée scientifique. Et un jour, ce certificat a été supprimé.
Ça, c'est très grave.
Oui, je pense.
C'est une grande responsabilité.
Voilà. Alors, ce certificat de science, c'était une très bonne tradition française à laquelle ont satisfait les grands philosophes que vous venez de citer, Georges Canguilhem, avant lui, le grand résistant Jean Caballès, Jean Toussaint de Santy, et puis leurs élèves, dont je suis, et très fière de l'être.
Justement, puisque vous parliez de Can Guilhem, Jean-Toussaint Cusanti, Cavaillès, je crois que vous avez apporté un texte à nous lire, comme il est l'habitude dans cette émission, d'entendre quelque chose d'un philosophe que vous avez choisi. Alors, dites-nous qui, pourquoi, extrait de quel livre.
Voilà, alors écoutez, étant spécialiste de philosophie des mathématiques, j'ai choisi un texte de Jean Toussaint de Santi, dont j'ai écouté les leçons et avec
dont
qui...
Dont vous avez été l'élève. Hein.
Oui, avec qui j'ai été plus que l'élève. J'ai été une de ses filles spirituelles. Et j'ai donc choisi un texte dans le grand ouvrage de Santi publié au Seuil en 1968, qui s'appelle « Les idéalités mathématiques ».
Et il a eu le prix Cavaillès, d'ailleurs, pour, pour ce livre, n'est-ce pas?
Et c'est dans l'avant-propos, et je l'ai choisi parce qu'il donne des indications sur ce qu'est le travail du philosophe quand il s'applique à analyser, réfléchir sur une pratique scientifique, là, en l'occurrence, les mathématiques.
Alors, on vous écoute, Ouria Benissinasseur.
Voilà. Alors, c'est donc dans l'avant-propos. Alors, l'édition originale, page 6 en chiffres romains, 7 et 8. Bon, je rangeais un petit peu mon texte. Alors, voici, c'est De Santi qui parle. Il importe, pour l'épistémologue, de s'installer, dans le système des expressions et des énoncés de statut mathématique. Pour l'épistémologue, cet espace est naturel. Cela veut dire qu'il commence toujours par le recevoir et qu'il lui faut apprendre à le parcourir. Autre est le parcours de l'épistémologue, autre celui du mathématicien. Celui-ci tisse lui-même les configurations de son espace. Et bien qu'il y soit situé, il n'y réside jamais comme en un lieu naturel. Ce qui est fait n'acquiert de statut pour lui que par l'exigence d'être à refaire. On pourrait dire de l'espace où se meut le mathématicien qu'il est privé d'épaisseur. Toute configuration exigée doit y être, pour ainsi dire, immédiatement accessible, pourvu qu'elle y soit compatible. Pourtant, cet espace plat en déploie un autre. Le mathématicien enchaîne les gestes selon les modalités de relation et de reproduction, dont les connexions lui demeurent toujours implicites, quel que soit le degré de formalisation atteint au niveau du champ thématique. Au moment même où il se meut dans cet espace plat, où objets, relations, opérations et signes sont posés et retenus comme thème explicite, le mathématicien s'est déjà mu en un autre espace, celui où s'enchaînent les gestes producteurs, où s'inscrivent les motivations. Excusez-moi.
Vous pouvez boire un peu d'eau peut-être, mon dessinateur, pour terminer la lecture de ce texte.
Excusez-moi. Au moment même, donc, où le mathématicien se meut dans cet espace plat, où objets, relations, opérations et signes sont posés et retenus comme thèmes explicites, le mathématicien s'est déjà mu en un autre espace. Celui où s'enchaînent les gestes producteurs, où s'inscrivent les motivations, où se déchirent les complexes théoriques. Système que le mathématicien en tant que tel ne peut explorer, sous peine de défaire sans cesse ses propres théorèmes. La tâche de l'épistémologue est d'apprendre à parcourir la pleine épaisseur de cet espace où le mathématicien réside sans jamais avoir à le déployer.
Alors, Ouria Benissinasseur, moi j'aimerais bien quand même que vous nous commentiez ce texte. Quelle leçon en tirer? Comment l'entendre, ce texte? Qu'est-ce qu'il veut dire aux philosophes?
Alors, vous voyez, on peut faire une analyse du texte. Le premier mot important de ce texte, c'est de s'installer. C'est ça qui nous enjoint de connaître de la science, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il faut que le philosophe habite pour un certain temps et d'une manière assez profonde le lieu du mathématicien. Il ne va pas l'habiter de la même manière que le mathématicien, car le mathématicien, il déploie des gestes, des opérations à faire et à refaire. Il continue le geste de ses devanciers pour inventer de nouvelles configurations. Le philosophe, lui, observe. Il est un petit peu en retrait. Il n'est pas au niveau superficiel, explicite, mais il aborde les couches sous-jacentes à la production et à l'invention de toutes ces configurations nouvelles et anciennes, puisque les mathématiques sont éternelles, on l'a dit. Une fois qu'un théorème est démontré, vous referez toujours la même démonstration et peut-être vous en inventerez une autre, mais il n'y aura de démonstration réelle que si vous la refaites pour vous-même. Alors, le philosophe, lui, va s'installer dans l'implicite, va occuper les couches de cette épaisseur, de ce que De Santi appelle l'épaisseur, et qui constitue tout ce que le mathématicien néglige délibérément pour faire des mathématiques. Et donc, la pensée va explorer ses profondeurs et va essayer de ramener à la surface, dans un discours différent, évidemment, de celui du mathématicien, va essayer de ramener à la surface le comment, c'est-à-dire expliciter les modes de production et de reproduction des configurations. Le mathématicien produit, le philosophe peut espérer expliquer comment et avec quelles hypothèses le mathématicien produit.
Donc, le philosophe est aux sources, au fond, s'intéresse et s'interroge sur l'invention elle-même, d'une certaine manière.
Bien évidemment, on est toujours absolument fasciné par les circonstances mathématiques, évidemment, et aussi extérieures, du surgissement d'une nouvelle découverte. On a écrit des monceaux de choses sur l'invention quasi simultanée à la fois par Newton et Leibniz du calcul infinitésimal. On a écrit, Cavaillès en particulier, de très belles choses assez difficiles sur la formation de la théorie abstraite des ensembles dans l'œuvre de Georg Cantor et de Richard Dedekind. Donc c'est vrai que la curiosité porte sur comment surgit l'innovation. Dans quelle continuité et dans quelle rupture avec ce qui est reçu, elle surgit. Et là, vous remarquez que De Santi dit que le lieu de l'épistémologue est un espace naturel. Naturel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est co-ambiant. Il y reçoit toujours ce qui a été dit avant lui. Mais il faut qu'il continue, qu'il reprenne et que lui-même soit un maillon de la chaîne du discours que font les épistémologues sur les objets, les méthodes, la nature de la science.
Donc, Uriah Benissinasseur, je crois que nous avons vraiment entendu cet appel que vous avez lancé à la philosophie.